RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. L'arrivée suivante, vous pouvez écouter Magazine culturel qui sera continué avec la rubrique Ma langue. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. En plus de l'indonésien, Wikipédia est maintenant disponible dans plusieurs langues régionales indonésiennes. L'Indonésie a une opportunité d'être puissance économique en Asie-Pacifique. Des dizaines de dirigeants musulmans indonésiens ont rencontré l'ambassadeur saoudien pour l'Indonésie. Arrivé en Afghanistan, le vice-président indonésien mène directement de réunions. La course Il pour Elle 2018, course amusante soutient l'égalité des sexes et d'enfants. L'armée aérienne indonésienne accepte 24 unités de l'avion de combat. Voici le journal complet. Le projet de Ganesha est un concours d'écriture lancé par Wikimedia Indonesia et Goethe Institute indonésien depuis septembre 2017 et prendra fin ce mois-ci. À travers ce projet, Wikimedia Indonesia, à travers son produit Wikipédia, a pour mission de fournir des connaissances gratuitement à tous les Indonésiens. Non seulement ça, afin de rendre plus facile pour les populations locales d'avoir des connaissances via Wikipédia, il y a maintenant quelques langues locales telles que la langue locale Aceh, Banjar, Banyumasin, Bugis, Javanese, Malaise, Minangkabau, Tetun, Sundanais et Langsorong en langue Gorontalo. Cela a été déclaré par le gestionnaire de projet Wikimedia Indonésie, Yvonne Christian, à l'événement Press Talk Project Ganesha à Goethe House, Jakarta Central.
The mission to make knowledge free and accessible by everyone.
La mission à faire la connaissance gratuitement est accessible par tout le monde, non seulement l'Indonésie Wikipédia. Nous sommes également conscients que l'Indonésie possède beaucoup de langues parlées. C'est la raison pour laquelle nous avons plusieurs questions de Wikipédia. Non seulement l'indonésien, mais nous avons aussi Acehnese, Banjo, Banyumasin, Bugis, Javanese, Malaise, Minangkabau, Tetum, Sundanais et nous allons bientôt lancer Gorontalo Wikipédia. Selon Yvonne, après 15 ans du premier article a été lancé, il y a déjà plus de 400 000 articles à Wikipédia Indonésie et possède environ 1 million d'utilisateurs enregistrés. Sur la base du nombre d'articles, Wikipédia Indonésia est actuellement à la 25e place dans le monde avec le plus grand nombre d'articles. L'Indonésie peut devenir l'un des pays ayant le plus grand pouvoir économique en Asie-Pacifique. Mais de nombreux défis doivent être envisagés et doivent être observés avec divers facteurs. C'est ce qu'a déclaré Berli Martawardaya, directeur du programme de l'Institut pour le développement économique et financier, dans le dialogue organisé par la Voix d'Indonésie à Jakarta mardi.
Ya, bagaimana mencapainya itu? Ada berapa persyaratan ya perbaikan sumber daya manusia, perbaikan.
Comment y parvenir? Il existe certaines conditions, l'amélioration des ressources humaines, l'amélioration des infrastructures, l'amélioration des produits et la stratégie de négociation. Ce sont les opportunités de les réaliser. Si en termes de potentiel, il est très riche, il peut les faire. Cette année, il y a une augmentation du niveau de Standard & Poor's rating qui a été affirmé que l'Indonésie était comme qualité d'investissement. En outre, Berli Martawardaya a déclaré que l'un des indicateurs de l'Indonésie qui atteindra la force économique est le sérieux du président Jokowi d'augmenter la cible de facilité de permis d'affaires. Même selon Berli, la facilité de cette licence de faire les affaires a été reconnue par les institutions internationales. Des dizaines de figures de diverses institutions islamiques d'Indonésie ont tenu une réunion avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Indonésie, Osama Muhammad Abdullah Al-Shoaibi. La réunion a eu lieu mardi soir le 27 février à Jakarta. Vous présent parmi les figures, le président de Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, le vice-secrétaire général de Majelis Ulama Indonesia, MUI, Zaitun Rasmin, le président de Persis, Maman Abdurrahman, le président du Conseil de coordination de prédicateurs en Indonésie, Bako Mubin, Ali Mukhtar Ngabalin, le prédicateur Abdullah Gymnastiar, ainsi que le président de l'Union des musulmans, POI, Nazar Haris. Selon l'ambassadeur Osama, l'arrivée de ces savants et des dirigeants musulmans vise à transmettre l'attitude de réserve vis-à-vis l'effort de l'internationalisation des deux terres saintes, à savoir la Mecque et Madina. Et la présence des savants ce soir est très encourageant. Nos cœurs est aussi la position prise immédiatement de rejeter l'internationalisation et la politisation du Hajj et Umrah. Et cette attitude fait l'Arabie Saoudite très heureuse et fait ressentir que l'Indonésie et la terre haram sont en bon état. L'ambassadeur Osama a ajouté ce qui est livré les dirigeants musulmans qui sont en provenance de diverses organisations et provenant de diverses régions d'Indonésie, telles que Java, Sulawesi, Papouasie, Sumatra et Bali, est une déclaration commune de l'Arabie Saoudite. Il rejette l'internationalisation du Hajj où cela est un acte d'hostilité. Auparavant, l'Iran a exprimé que la gestion du Hajj est menée à l'échelle internationale. L'appel est devenu plus fort après l'effondrement malheureux d'un groupe à la mosquée Al-Haram à la Mecque en 2015. Non seulement l'Iran qui veut la gestion du Hajj peut être internationalisée, les nouvelles arabes ont rapporté en 2017 le Qatar a lancé un problème similaire. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla est parti pour l'Afghanistan à l'aide d'un avion présidentiel mardi matin. Accompagné du vice-commandant de la gendarmerie indonésienne, le commissaire général Shafruddin, le vice-président a plusieurs ordres du jour importants. Sa mission principale en Afghanistan est d'apporter la mission de paix. La première visite, le vice-président Yusuf Kalla a été accepté par le président afghan Ashraf Ghani au palais d'El-Kusa à Kaboul mardi à 17h55 heure locale. À cette occasion, le président Ashraf Ghani a invité le vice-président à dîner au palais. Selon la déclaration du porte-parole du vice-président Hussein Abdullah, la réunion s'est tenue après que le vice-président ait rencontré le président du Conseil suprême de la paix, Mohamed Karim Khaliali, à 15h heure locale au palais Haram. Ces deux réunions ont été tenues par le vice-président lors de son arrivée à Kaboul, en Afghanistan. Le vice-président qui a quitté l'aéroport de Kuala Namu Medan mardi a volé pendant près de 7 heures et a atterri à l'aéroport international de Kaboul en Afghanistan à 13h40 heure locale. Le vice-président Yusuf Kalla doit participer à la conférence sur le processus de paix de Kaboul, une conférence pour le processus de paix à Kaboul. à Kabul, le vice-président est accompagné de la ministre des Affaires étrangères, Retno L.P. Marsoudi. Afin de célébrer la Journée internationale de la femme, la Coalition d'affaires indonésienne pour l'autonomisation des femmes tient une course amusante samedi le 4 mars prochain. Intitulée He for Shiran, cet événement est également soutenu par les femmes des Nations Unies. En plus d'accueillir la Journée internationale de la femme, cette course amusante est maintenue en faveur de l'égalité des sexes où les femmes ont la même position que les hommes. La présidente de l'IBCWE, Shinta Wijaya, a déclaré lors d'une conférence de presse mardi le 27 février à Jakarta que la participation de la communauté était essentielle pour soutenir l'égalité des sexes relayée par les femmes des Nations Unies à travers la campagne « Il pour elle ».
Tapi pada prinsipnya ini adalah satu fadran, satu kampanye.
Mais en principe, c'est une course amusante, une campagne pour être ensemble avec nous. Si elle ne peut pas courir 5 km ou 10 km, ne vous inquiétez pas, vous ne devez pas courir. Vous pouvez simplement marcher. Vous pouvez marcher, oui, marche amusante, pas course amusante. Mais il est important que la participation de ces parties soit importante. Notre participation actuelle existe déjà 5000. Pour être capable de faire campagne ensemble et de soulever le problème de « il pour elle ». Shinta Wijaya a ajouté que l'égalité des sexes sera atteinte si les femmes et les hommes ont la volonté et la coopération pour réaliser l'égalité. La campagne « Il pour elle » est lancée par les femmes des Nations Unies. « Il pour elle » est un mouvement de solidarité qui invite les hommes et les garçons en tant que partenaires égaux, aussi en tant qu'agents de changement pour accélérer la réalisation de l'égalité des sexes. Le ministère indonésien de la Défense a officiellement remis plus de 24 unités d'avions de combat F-16 de type CD à l'armée aérienne de la base aérienne Iswahyudi, Madiun, Est de Java, mercredi. Dans un communiqué de presse reçu par la voix d'Indonésie de RRI du Centre de communication publique du ministère de la Défense, l'événement de transfert des avions de combat était assisté par le ministre indonésien de la Défense, le commandant en chef de l'armée nationale indonésienne, le chef d'état-major de l'armée nationale indonésienne, le chef d'état-major de l'armée aérienne, des représentants du gouvernement américain et des hauts fonctionnaires du ministère indonésien de la Défense et du quartier général de TNI. Dans son discours, le ministre indonésien de la Défense, Ria Mizatriakudu, a dit que ces avions de combat sont une subvention du gouvernement des États-Unis qui fait partie de la coopération stratégique entre l'Indonésie et les États-Unis qui doit être maintenue et développée. Ria Mizat a déclaré que la politique stratégique d'Indonésie était cohérente pour renforcer le partenariat de défense et de coopération avec les pays partenaires à un niveau plus stratégique fondé sur la politique étrangère qui est neutre et active. Ria Mizat a également déclaré « L'existence de ces avions fait partie intégrante du mode de réalisation de titres de la défense nationale de puissance intelligente » pour faire face aux différentes dimensions des menaces réelles et non réelles qui pourraient déstabiliser la sécurité intérieure de l'État unitaire de la République d'Indonésie, NKRI. Serge Gitar, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre, l'enregistrement de la validation de la carte de téléphone cellulaire. Depuis 2005, chaque abonné de téléphone cellulaire a été demandé à s'inscrire avant d'activer le numéro. Mais à ce moment-là, pas accompagné du processus de validation. Il est encore possible de manipuler les données. Il est facilement d'abuser par les utilisateurs à des fins négatives, telles que la propagation de canulars, les menaces, les activités de terrorisme à la fraude. En réponse à cela, le gouvernement s'est enregistré d'octobre 2017 à février 2018. Cette fois, ce réenregistrement était suivi par l'utilisateur en incluant le numéro de la population et de la carte familiale. Lié à l'enregistrement et à la révalidation, le ministre de la Communication et de l'Informatique, Rudi Antara, a confirmé que le gouvernement n'allait pas prolonger la période d'enregistrement des cartes prépayées qui a fini le 28 février 2018. Le ministre Rudi Antara a confirmé lorsque la période d'inscription prépayée expirera et que l'utilisateur du service cellulaire n'aura pas enregistré la carte, son numéro sera supprimé du système des opérateurs de télécommunications progressivement. Pendant ce temps, le directeur général de la Poste et de l'Informatique du ministère des Communications et de l'Informatique, Ahmad Ramli, a expliqué que le réenregistrement des cartes prépayées vise à soutenir le développement de l'économie numérique. De cette façon, les transactions financières dans le monde en ligne deviennent plus sécurisées. En outre, le réenregistrement vise à protéger le public contre la fraude, la criminalité et les violations de la loi au moyen de téléphones cellulaires et d'autres médias électroniques. Zoudan Arif Fakhroullah, directeur général de la population et des archives civiles du ministère de l'Intérieur, a déclaré que la coopération de validation avec les opérateurs cellulaires pourrait prévenir le crime et le terrorisme. Par conséquent, les criminels et les terroristes opèrent souvent en utilisant la clémence des contrôles d'identité lors de l'enregistrement initial des cartes de téléphone cellulaire. Zoudan a également mentionné les acteurs de la propagande haineuse ou des canulars ne seraient pas faciles à utiliser lorsque la validation des données personnelles par les opérateurs mobiles est terminée. De nombreuses parties ont craint la confidentialité des données qui peuvent être détournées dans un but particulier. En outre, avant l'élection du chef régional simultanément 2018 et l'élection présidentielle et législative 2019, il est à craindre que de nombreux partis vont jouer avec les données de la population pour le bien des élections. Cela rend certaines personnes réticentes à se réinscrire. Grâce à la socialisation infatigable du gouvernement, les gens peuvent enfin comprendre l'impact qui se produit lorsqu'ils ne s'inscrivent pas et ne valident pas. Les facteurs de sécurité et d'avantages économiques font de l'enregistrement et de la validation comme choix logique pour la société. Penser positivement plutôt que de simplement avaler les nouvelles sur la boue de données personnelles devient la preuve que les gens sont plus mûrs et pensent bien. Cela peut être vu à partir des dernières données du ministère des Communications et de l'Informatique le 27 février 2018 à 9h42 heure locale. Le nombre de réinscriptions atteint près de 300 millions, dépassant le nombre de la population de l'Indonésie qui, selon les dernières données du Bureau central des statistiques, a enregistré de 154,9 millions de personnes. Bien que ce ne soit pas tout le monde et en téléphone portable, beaucoup ont plus d'un numéro. Sur le tard, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 1er mars 1919, le mouvement du 1er mars en Corée. L'indépendance de la Corée le 1er mars 1919, ou la manifestation Mans, ou le mouvement de 5000, est le mouvement initial du peuple coréen dans la lutte pour l'indépendance de la domination coloniale japonaise. Ce mouvement a eu lieu le 1er mars 1919 à laquelle des millions de Coréens ont la manifestation pacifiquement. Dans ce mouvement, environ 7000 personnes sont mortes, tuées par la police et les soldats japonais. Le 1er mars 1949, l'attaque générale qui a eu lieu le 1er mars 1949. L'attaque générale qui a eu lieu le 1er mars 1949 dans la ville de Yogyakarta a été faite par l'armée de la République d'Indonésie contre la néerlandaise dans la capitale indonésienne à Yogyakarta à l'époque de la guerre pour maintien de l'indépendance. L'attaque du 1er mars vise à montrer à la communauté internationale que l'Indonésie est toujours là et l'armée de la République de l'Indonésie était encore forte après l'agression de la Hollande qui a capturé le président Sukarno et vice-président Mohammed Hatta. Cette attaque a été dirigée par le lieutenant-colonel Suharto sous le commandement du commandant général Sudirman en coordination avec Sri Sultan Hamengkubuwono IX, le chef de la Yogyakarta à l'époque-là. L'armée indonésienne a réussi à occuper la ville de Yogyakarta pendant 6 heures. Le 1er mars 2002, le début de l'opération de Anaconda. L'opération d'Anaconda était une invasion américaine massive de l'Afghanistan qui a commencé le 1er mars 2002. Les forces américaines et certains pays alliés ont essayé de détruire les forces de Al-Qaïda et des talibans. L'opération a eu lieu dans la vallée de Sahikot et les montagnes d'Arma au sud-est de Zomat. Cette opération a été la première grande bataille de la guerre des États-Unis en Afghanistan depuis la bataille de Tora Bora en décembre 2001. C'était la première opération en Afghanistan impliquant un grand nombre des forces aériennes conventionnelles des États-Unis. L'opération d'Anaconda s'est terminée le 18 mars 2002. Sajami, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée l'augmentation du nombre de la population de Rekuang Balen Talisayan. La population de Rekuang Balen dans les eaux de Talisayan, la région de Berau, Kalimantan Oriental, augmente. Dans les 3 ans, le nombre d'ajoutes significatif. C'est ce qu'a déclaré Mahardika, le membre de l'équipe de recherche du Fonds mondial pour la nature, ou WWF Indonésie et World Share Indonésie récemment. Il expliquait qu'au début de cette année, son équipe faisait des recherches sur le Rekuang Balen dans les eaux de Talisayan et au cours des dernières années, il y a l'ajout d'un nouvel individu. Mahardika a dit que c'était une deuxième étude. Premièrement, en 2015, le nombre de Rekuang Balen a atteint environ 36 têtes et dans la deuxième recherche, au début 2018, le nombre a atteint 51. En termes de taille, la population existante est en grande partie classée comme immature, avec une taille entre 3 jusqu'à 8 mètres, alors que la taille des adultes 18 mètres. Selon la recherche, les Rekuang Balen à Talisayan ne sont pas comme une migration, mais ils se sont installés et se produisent là-bas. Ils se trouvent également sur l'île de Derawan. Mahardika a déclaré qu'il ferait de nouveau des recherches pour voir le développement des Rekuang Balen existants. Dans un proche avenir, son côté mènera également la socialisation de la procédure interaction avec le Rekuang Balen correctement. En raison des résultats de recherche, il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas d'interagir avec le Rekuang Balen. Ceci devient une bonne opportunité touristique, mais il doit être adressé encore pour être capable de suivre la bonne règle. Sinon, cela peut mettre en danger les touristes et le Rekuang Balen. Pendant ce temps, le chef de la culture et du tourisme Kadis Budpar de Berau Monsieur Ma Pasikra a déclaré que la reproduction de Rekwangbalen dans les eaux de Talisayan était une grande capitale pour le développement du tourisme à Berau. Il invite également tous les acteurs du tourisme à tirer parti de cette opportunité pour améliorer le secteur du tourisme. De plus, il invite la communauté à garder ensemble les zones marines environnantes qui ont fait les Rekwangbalen de survivre. Chers amis, c'était Modernisie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Magazine Culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager dans la province de Sulawesi Ouest. Donc, restez toujours avec nous à la Voix de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission via www.voinews.id. Mamuju du Nord est l'une des régions de la province de Sulawesi Ouest. La capitale de cette région est située à Pasangkayu. Son emplacement est 276 km de la ville de Mamuju, la capitale de la province de Sulawesi Ouest. L'emplacement de la région de Mamuju du Nord adjacente au détroit de Malacca à Ouest. Ce qui rend ce district est doté de diverses belles plages qui deviennent la principale destination touristique de la région du nord de Mamuju. Celui que nous vous recommandons de visiter est la place de Tanjung Babia. Vous pouvez profiter de la beauté naturelle et aussi des diverses cuisines typiques les gens de Mandar, l'un des autochtones de Sulawesi occidentale. La place de Tanjung Babia est située dans le district de Pasangkayu, dans les 2 km de Mamuju du Nord. Cette place est l'une des principales destinations touristiques de la région du Nord Mamuju parce que le plus souvent visitée par les touristes nationaux et étrangers chaque semaine. Du centre-ville de Pasangkayu, vous pouvez utiliser des véhicules à 2 roues ou bien à 4 roues à la plage de Tanjung Babia. À ce site touristique, vous pouvez profiter de la beauté de la plage avec un littoral de 3 km. Selon littoral, fait n'importe qui sera heureux de jouer sur la plage. La plage de Tanjung Babia possède les eaux bleues claires qui peuvent gager vos yeux et apporter le calme juste en le regardant. Avec les autres vagues qui peuvent atteindre 2 mètres, vous pouvez faire du bateau, de la voile, de la pêche ou bien des sports nautiques, y compris de nager. Mais vous devez être prudent. Après la baignade ou le sport aquatique sur cette plage, vous pourrez vous reposer dans le gazebo qui est disponible le long de la plage de Tanjung Babia. La plage de Tanjung Babia offre le charme d'une belle plage. Cette zone de tourisme maritime propose également diverses cuisines traditionnelles de Mandar, entre autres jepa. Cette nourriture typique est faite de manioc râpé mélangé avec la noix de coco râpée. Jepa est généralement servi chaud avec du poisson grillé ou bien du poisson étant cuit, bo pia pia. Vous pouvez voir le processus de fabrication des aliments traditionnels de Jepa, les poissons frits grillés ou bien les poissons qui sont cuits, bo pia pia. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Merci à tous et au revoir.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Merci d'être fidèle à notre antenne La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, la Voix de l'Indonésie à Jakarta dans le programme Bahasaku ou Malangue comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Et chers amis, nous nous rencontrons de nouveau dans le programme Malangue et aujourd'hui nous vous invitons à visiter la province des Moluques afin de connaître plus loin la langue Yala Hatan. Les habitants de Yala Hatan, OP Tamilo, sous-district Amahai, la région des Moluques centrales, possèdent une histoire intéressante. Le nom Yala Hatan est interprété comme protégé le P Tamilo. Parce qu'au début, le peuple Yala Hatan a aidé la communauté de Yamilo à s'emparer de la terre du peuple Besi sur l'île de Seram. Pour les habitants de Tamilo, l'aide de la communauté Yala Hatan est considérée comme un service inoubliable. Ainsi, la relation de la communauté du pays Tamilo avec le Hamo Yala Hatan était bien établie jusqu'à présent. La langue Yala Hatan a plusieurs autres noms, à savoir Atamanu, Awaya, Yala Hatan et Jahalatani. La langue Yala Hatan est classée comme langue austronésienne et malayo-polynésienne. Ethnologue.com, un site de catalogue mondial discutant du statut de la langue Yala Hatan comme étant en voie de disparition. Chers amis, voici quelques exemples de mots dans la langue Yala Hatan. Ina, en français, maman. Sua tumine uru. Sua tumine uru, en français, pas encore rentré. I, en français, il ou elle. Moturuai. Moturuai, en français, en train de dormir. Yam, yam, en français, nous. Yam an ehui, yam an ehui, en français, avoir mangé. Voici l'exemple de conversation dans la langue Yala Hatan. Inai sua timina pasar uru. Inai sua timina pasar uru. En français, maman n'est pas encore rentrée du marché. Imuturawai. Imuturawai. En français, il est en train de dormir. Yam an ehuni. Yam an ehuni. En français, nous avons mangé. Chers amis, si vous avez des critiques et des suggestions, s'il vous plaît, écrivez-nous à voi@voinews.id. Je répète, voi@voinews.id ou à notre page de médias sociaux, Facebook The Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia. Et Twitter @voiindonesia. Chers amis, voilà la rubrique Ma langue de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à la semaine prochaine.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Pelangi Nada, le magazine musical vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la voix d'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine musical. Vous pouvez écouter nos émissions par longue courte 9525 ou sur l'internet à l'adresse www.voinews.id. Et nous vous invitons également à rejoindre La Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter le magazine musical avec une chanteuse qui s'appelle Nur Afni Octavia. On écoute sa première chanson intitulée Si tu es seul. Bonne écoute.
Jangan kau bersedih.
Ce retard, une chose qui est sûre, tout le monde ne vaut pas seul. La solitude va rendre les gens deviennent solitaires. Lorsque la solitude a enveloppé une personne, la personne est susceptible de souffrir de dépression. Les paroles de cette chanson nous rappellent qu'il ne faut pas dériver en solitaire quand il est seul, parce que l'amant va accompagner. Bon, serviteur, on écoute la chanson suivante, Daphné, intitulée « Mère ». Bonne écoute.
Ibu,
Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse, Nour Afni Octavia. Nour Afni Octavia a réussi à devenir une chanteuse populaire aux années 90 sous un musicien et compositeur connu, le défunt Rinto Harahap, qui produit beaucoup de chanteurs pop dans le pays. Les chansons de Rinto sont simples et faciles à comprendre dans une série de beaux tons, voix vite au cœur des amoureux des chansons pop dans le pays. La popularité de Nour Afni Octavia n'a pas duré longtemps après le mariage. Cette chanteuse est occupée sur ses activités en tant que femme seulement. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici donc les deux dernières chansons de Nour Afni Octavia intitulées Anneau de souvenir et prière. Bonne écoute et au revoir.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4 et 5, Jakarta 10110. ou PO Box 1157 Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.